France Musique.
France Musique est à Prades pour l'ouverture du festival Pablo Casals, vendredi à 19h30 et en direct. L'orchestre du festival sera dirigé par Pierre Bleuze avec en soliste Sol Gabetta. Au programme, le second concerto pour violoncelle de Camille Saint-Saëns et la symphonie 41, dite Jupiter, de Mozart. Le concert d'ouverture du festival de Prades, c'est vendredi sur France Musique et sur francemusique.fr.
France Musique.
Vous allez l'adorer.
Bonjour, c'est France Musique. Bienvenue dans nos rendez-vous de l'été qui célèbrent toutes les musiques et leurs artistes. Dans un instant, place à Musique Matin jusqu'à 9h avec Clément Rochefort. C'est l'été sur France Musique. Musique Matin, le 7h39 de Clément Rochefort.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver ce matin jusqu'à 9h sur France Musique. On va se réveiller en douceur pour démarrer cette nouvelle journée. Nous sommes le mardi 27 juillet 2021 et ce matin on va de nouveau voyager un petit peu partout en France. On sera aussi un peu coquin et on fera une belle halte dans l'Italie baroque avec notre invitée du jour à 8h30, la mezzo-soprano Lucille Ricciardo. Mais avant, à 7h40 dans les news, on partira pour l'île de Groix où est né un nouvel orchestre de chambre avec Susanna Kubik. À 7h50 dans le jeu de l'été a gagné le dernier disque de l'ensemble Correspondance de Sébastien Dossé autour des plaisirs du Louvre à l'époque de Louis XIII. À 8h, le journal de Mathilde Cariou. À 8h05, exceptionnellement, pas de Tour de France des festivals puisqu'on rendra hommage à André Tuboeuf, écrivain, philosophe, critique musical qui nous a quittés hier. Nous serons en compagnie de Christian Merlin. À 8h25, les frères Jacques, mais pour accompagner le point du jour, une musique toute douce, toute poétique, comme une caresse des nuages dans le ciel bleu de l'été. C'est le premier mouvement du quintet pour vent et piano de Rimsky-Korsakov par les vents français. Amis et filles, réveillez-vous, bon réveil et bienvenue à tous sur France Musique.
Thank you.
Thank you.
Le premier mouvement du quintet pour vent et piano de Rimsky-Korsakov, interprété par les vents français avec Éric Lesage au piano.
C'est l'été sur France Musique.
Merci d'être avec nous ce matin, il est 7h42, c'est l'heure de l'actu musicale. Et l'information principale ce matin, c'est bien sûr la disparition hier du philosophe, écrivain et grand musicographe André Tuboeuf à l'âge de 90 ans. Dès son annonce, les réactions se sont multipliées sur les réseaux sociaux. La ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, a salué un passeur incomparable qui a transmis les clés d'écoute des grands interprètes à de nombreux amateurs. Il est désormais aux côtés de Hauteur, Schwarzkopf, Lipati, Arao et des légendes qu'il a su nous rendre familières. Tant de merveilleux souvenirs, écrit le violoniste Renaud Capuçon, des premiers concerts de 1997 au poignant livre sur Adolphe Busch. André a toujours été là, adieu mon ami. Le magazine Classica déplore aussi la perte d'un de ses piliers, comme nul autre. Il sut faire partager à notre rédaction et à ses lecteurs sa très vaste culture, sa curiosité érudite et éclairée, coulée dans un style qui la rendait inimitable. Quand Opéra Magazine salue une figure tutélaire de la critique musicale en France, ami personnel de nombreux artistes qui lui avaient ouvert leur cœur, un grand monsieur s'en est allé. Dans le Figaro.fr également, notre confrère Christian Merlin tire son chapeau à, je cite, un écrivain qui avait élevé la critique musicale en art. Nous reviendrons sur la disparition d'André Tuboeuf après le journal de 8h en compagnie de Christian Merlin justement, avec aussi quelques archives radiophoniques de ses entretiens avec Lionel Esparza qui seront rediffusées tous les samedis et dimanches à 7h à partir du 31 juillet et d'ores et déjà disponible sur francemusique.fr. Petite révolution à Bayreuth, tout dimanche, la chef d'orchestre ukrainienne Oksana Liniv est devenue la première femme à diriger un opéra dans le cadre du prestigieux festival wagnérien. La représentation s'est déroulée en présence de la chancelière allemande Angela Merkel, habituée de la manifestation. Oksana Liniv, 43 ans, a ouvert la saison 21 du festival avec le vaisseau fantôme dans une nouvelle mise en scène de Dmitri Tcherniakov. Interrogée par le Berliner Zeitung, elle a loué l'agencement de la salle où la fosse d'orchestre est recouverte. Il ne s'agira pas de savoir ce que je porte, comment je dirige, mais uniquement si ça fonctionne ou pas. Il ne s'agira que du son, avait-elle expliqué. À lire dans Le Monde, le récit du concert d'ouverture vendredi soir du Festival International de Piano de la Roque d'Anthéron, où France Musique plantera ses micros en direct à partir de demain. Marie Audrou a salué en particulier la performance de Vadim Kolodenko et du chef Lars Vogt à la tête de l'orchestre de chambre de Paris dans un concerto L'Empereur de Beethoven sous haute tension. Et pour finir, direction la Bretagne ce matin pour une naissance, ça fait toujours plaisir. Depuis quelques jours, un nouvel orchestre a vu le jour, rêvé par 8 jeunes musiciens en début de carrière. Il a été baptisé l'Orchestre de Chambre de l'île de Groix. Son histoire nous est racontée par Susanna Kubik.
Dans le port de l'île de Groix, c'est l'heure des retrouvailles. Le bateau à peine accosté, parmi les passagers, on reconnaît facilement les musiciens. Ils sont une petite trentaine, jeunes professionnels ou pas encore diplômés, venus de 4 coins de France, d'Allemagne, des Pays-Bas, d'Angleterre, en voiture ou en train, puis 45 minutes de bateau, car l'île de Groix, ce petit joyau posé au large de l'Orient se mérite.
Idéalement, il faudrait que vous preniez un vélo si vous êtes d'accord.
Allez, l'instrument sur le dos, on enfourche son vélo et c'est parti pour la première session de déchiffrage. On retrouve l'orchestre au complet dans la salle des fêtes. Au programme, Mendelssohn, Beethoven et Mozart. C'est Julien Chauvin qui dirige du premier violon.
C'est très ambitieux, ce qui est leur idée, et surtout sur une, voilà, sur une île qui n'est pas très accessible. Et justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que sur une île, on peut justement rêver à des projets fous, inventer des choses. Enfin, et là, c'est formidable que tous ces jeunes, ils aient cette énergie et qu'ils arrivent à réaliser leur rêve de faire de la musique ici.
Un rêve fou naît un soir de l'été dernier, après un nocturne de Mozart, au bord de l'eau, vue sur mer, au coucher du soleil. 8 copains, tous musiciens, qui viennent sur l'île de Groix depuis des années, ont décidé ce soir-là de monter un orchestre de chambre et de le faire venir sur l'île. Le hautboïste Lorenz Retti et le clarinettiste Theo Führer se souviennent.
Après le Covid et tout ce temps sans pouvoir jouer, c'est comme si on s'était un peu arrêté de vivre pendant 2 ans. Quoi.
Artistiquement, c'était très dur, on était vraiment perdus. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles on s'est dit on va créer un orchestre. Plutôt que d'attendre, on va proposer quelque chose qui nous ressemble.
On s'est dit que les gens ici n'ont pas forcément l'occasion d'entendre des symphonies de Beethoven, de Mozart, Mendelssohn.
Je crois que même c'est la première fois qu'un orchestre symphonique vient sur l'île de Groix.
Mais monter un orchestre, ce n'est pas une mince affaire. Après des mois de préparation du terrain et d'un travail administratif entièrement assumé par les musiciens, le projet se concrétise enfin.
Après 4-5 mois d'échanges de mails, de téléphones et tout ça, on est content de enfin pouvoir s'asseoir sur notre chaise et jouer avec tout le monde. Quoi.
À la pause, nous retrouvons la flûtiste Juliette, fière du chemin parcouru.
Là, ce matin, la première lecture, pour moi, c'était vraiment émouvant. Ça me prenait aux tripes parce que je me disais, en fait, tout ce qu'on a fait, c'était pour vivre des moments comme ça, avec en plus deux personnalités musicales hyper, hyper intéressantes. Donc, ça apporte plein de choses à tout le monde.
2 programmes sont en préparation cette semaine, un plus classique dirigé par Julien Chauvin et un deuxième autour de la musique traditionnelle et des compositeurs bretons, dirigé par la chef Ariane Mathiac. Une façon d'aller à la rencontre du public de la région et un moyen de tisser les liens avec les formations déjà en place.
La Bretagne est un territoire très vaste et il n'y a pas beaucoup de possibilités d'entendre du grand répertoire symphonique. On a senti beaucoup, beaucoup de volonté, en tout cas, d'avoir une nouvelle phalange orchestrale hyper motivée, d'autant plus que la saison a été difficile, et notamment pour les jeunes. Et ce qui nous intéresse, nous, beaucoup, c'est évidemment que les orchestres puissent se rapprocher, que peut-être, grâce à ce rapprochement, on puisse proposer un répertoire plus vaste.
2 concerts sont programmés sur l'île, ce soir et jeudi, ainsi que 2 autres plus tard dans la région. Quant aux musiciens, ils rêvent déjà à la prochaine session, dans un an, sur l'île de Groix.
Un reportage signé Susanna Kubik qui visiblement ne s'est pas noyée puisqu'on a pu recevoir son reportage à temps. La Bretagne, donc, la Bretagne, c'est aussi de nombreux compositeurs, de grands talents, parfois un peu oubliés comme Guy Ropartz ou Paul Ladmirau. Paul Ladmirau qui, dans ce poème symphonique tiré de la musique qu'il avait écrite pour le film La Brière de Léon Poirier en 1924, c'est à merveille faire feu du folklore breton dans une peinture aux teintes grises et suaves.
Thank you.
J'aime beaucoup ces musiques picturales, comme on en trouve vraiment beaucoup dans la musique française. Ici, c'était Le Printemps, un extrait du poème symphonique La Bruyère de Paul Lanmiraut, interprété par l'Orchestre de Bretagne sous la baguette de Stefan Zanderling. Eh ben oui, à 7h52 sur France Musique, c'est l'heure de jouer en jeu ce matin. Un disque dont ceux qui me connaissent savent à quel point je l'adore et pour cause, c'est l'album Les Plaisirs du Louvre de l'ensemble Correspondance de Sébastien Dossé. Un album qui s'intéresse à la vie musicale du Palais du Louvre avant Versailles, où sous le règne de Louis XIII, l'air de cour et le ballet mobilisent l'élite des compositeurs tels que Moulinier, Guédron, Chancy et Boesset, le plus réputé d'entre eux, qui fait évoluer l'air polyphonique hérité de la Renaissance vers une conception plus intime, loin des fastes à venir de la cour du Roi Soleil. Disque sur lequel chante notre invité du jour d'ailleurs, entre autres Lucile Richardot. Alors pour gagner, il vous suffit de répondre à la question qui va suivre, de répondre correctement bien sûr, en nous écrivant via l'onglet Contactez-nous, c'est sur la page de l'émission Musique Matin sur francemusique.fr. Vous n'oubliez pas bien sûr de nous indiquer vos coordonnées complètes. Alors voici la question. Louis XIII était un roi musicien. Quel était son instrument favori? Le violon, le clavecin ou le luth? Quel était l'instrument favori de Louis XIII? Le violon, le clavecin ou le luth? C'est à vous de jouer, direction francemusique.fr, la page de l'émission. Ne vous pressez pas, vous avez jusqu'à 8h50 pour participer lors du tirage au sort.
Et charme, les
Un extrait de ce disque, Les plaisirs du Louvre, de l'ensemble correspondance de Sébastien Dossé, Rompez les charmes du sommeil d'Étienne Moulinier. Moi j'adore cette musique, je kiffe, mais vous le savez déjà. C'était avec la voix de Lucille Richardot, David Tricou, David Cornillo, Nicolas Bromance, Marc Moyon, Étienne Bazola et l'ensemble correspondance de Sébastien Dossé. Très très beau disque en jeu ce matin. Continuez à nous écrire via francemusique.fr pour participer au jeu jusqu'à 8h50. L'ensemble correspondance qui sera en concert le 28 juillet à Lisieux, dans le cadre des promenades musicales en Pays d'Auge, un programme autour des compositeurs baroques normands, avec notamment la recréation d'une messe exceptionnelle écrite par Louis le Prince, maître de chapelle à la cathédrale de Lisieux, qui sera donc rejouée pour la première fois depuis 1670 sous les voûtes de la cathédrale. Même programme qui sera donné un peu plus tard le 15 août au Musical de Normandie.
Mercredi à 21h sur France Musique, rendez-vous en direct du Festival de Piano de la Roque d'Anthéron pour le concert. Bertrand Chamaillou interprète un chef-d'œuvre du piano résumant presque toute une vie, les années de pèlerinage de Liszt, au programme la première année, la Suisse, puis l'Italie, Venise, ses gondoliers. Rendez-vous mercredi à 21h sur France Musique, en direct de la Roque d'Anthéron avec Bertrand Chamaillou.
Une voix rocailleuse, reconnaissable entre toutes. Mais connaissez-vous le vrai Louis Armstrong ? Mystérieux, peut-être un peu mythomane. Pour vous, j'ai mené l'enquête et je vous invite à passer un été avec Armstrong chaque week-end à 18h sur France Musique et sur l'application Radio France.
Se vacciner contre la Covid-19, c'est se protéger. Protéger les plus fragiles et pouvoir bientôt tous se retrouver. Qui peut se faire vacciner aujourd'hui ? Toutes les personnes de 12 ans et plus. Alors n'attendez plus. Faites-vous vacciner. Vous pouvez vous renseigner et prendre rendez-vous sur santé.fr ou auprès d'un médecin, d'un pharmacien ou d'un infirmier. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé et de l'Assurance Maladie.
France Musique.
Merci d'être avec nous ce matin. Bon réveil à ceux qui ouvrent les yeux. Il est 8h. Et c'est l'heure des informations du journal de Mathilde Cariou. Bonjour Mathilde.
Bonjour Clément, bonjour à tous. 40 millions de Français ont reçu au moins une première dose de vaccin. Le cap a été franchi quelques heures après l'adoption du projet de loi sur l'extension du pass sanitaire. Sur Twitter, Emmanuel Macron appelle à l'unité nationale et encourage à poursuivre sur cette lancée. Cependant, le nombre de contaminations repart à la hausse. 7000 malades sont actuellement hospitalisés, dont 1000 dans un état critique. Des chiffres qui ont pratiquement doublé par rapport à la semaine dernière. Et en ce qui concerne le pass sanitaire, le Conseil d'État devra rendre sa décision le 5 août. Plusieurs organisations de professionnels du spectacle et des loisirs ont demandé sa suspension dans certains lieux accueillant du public, mais cette mesure a d'ores et déjà été rejetée. La France et les États-Unis appellent la Tunisie à respecter les acquis démocratiques et les droits humains. Les dernières décisions du président Kais Saied inquiètent. Dimanche, il a suspendu les activités du Parlement et limogé son premier ministre. Hier, 3 autres ministres ont été démis de leurs fonctions. Certains parlent de coup d'État, d'autres de sortie de crise. Les précisions de Valérie Crova.
En s'octroyant de fait le pouvoir exécutif, le président tunisien a pris de court son opinion publique, qui avait pourtant manifesté dimanche son ras-le-bol à travers le pays. Bader, journaliste indépendant, le confesse, il n'est qu'à demi-surpris.
Je ne peux pas vous dire qu'on attendait un truc pareil, mais ce qui se passe en Tunisie depuis les élections de 2009, c'est un paysage politique chaotique qui a engendré peut-être un passage en force commis par le président de la République.
Un passage en force qui peut aussi inquiéter.
Moi, je pense que le mot d'ordre, c'est la vigilance. La Constitution exige que ces mesures-là prises par le président ne peuvent pas dépasser les 30 jours. Sinon, on est hors Constitution, on est hors la loi.
et Bader d'ajouter que le président Saïed doit rétablir au plus vite le fonctionnement normal de l'État, paralysé par des mois de blocage en raison des divisions de la classe politique, dont le parti islamiste Ennahda est selon lui en grande partie responsable.
Beaucoup de personnes pensent que c'est un nouvel élan pour le processus révolutionnaire. D'autres personnes disaient qu'il n'y avait pas une autre solution. Les élections, c'est pour 2023, donc on ne peut pas rester à ce niveau de chaos.
Bader en est convaincu, c'est une nouvelle page de l'histoire de la Tunisie qui s'ouvre.
Valérie Crova pour France Musique. Et au Liban, l'homme d'affaires et ancien Premier ministre Najib Mikati est chargé de former un nouveau gouvernement. C'est la troisième nomination à ce poste depuis la démission d'Hassan Diab après l'explosion du port de Beyrouth en août 2020. Najib Mikati doit donc mettre en place un cabinet qui permettra de sortir le Liban de la pire crise économique et sociale de son histoire. La ligne téléphonique d'urgence entre les deux Corées a été rétablie ce matin. C'est la Corée du Nord qui avait décidé de couper les ponts il y a tout juste un an après la distribution de propagande anti-Pyongyang par des militants du Sud. Les relations semblent donc s'améliorer entre les deux pays qui sont toujours techniquement en état de guerre. Un procès inédit s'ouvre aujourd'hui au Vatican, celui de l'affaire de l'immeuble de Londres. Parmi les 10 accusés, l'ancien cardinal Angelo Becciu. Il est accusé de malversation, de détournement de fonds et de corruption, alors qu'il était au service du pape François. À Rome, c'est un reportage de Bruce Galzin.
Un cardinal jugé par un laïc au sein même du Vatican. C'est du jamais vu et c'est une réforme du pape François il y a à peine quelques mois qui l'a permis. C'est même un ancien procureur italien de la lutte anti-mafia qui dirige désormais le tribunal pénal du Vatican. Le pape veut donner l'exemple selon le cardinal secrétaire d'état numéro 2 du Vatican, Pietro Parolin.
Rien se fait dans les cinq sièges sans le consensus de pape François. Et surtout cette décision. C'est important.
Pietro Parolin n'est pas poursuivi, lui qui dirige la secrétaire d'État au cœur du scandale. En revanche, plusieurs prélats et laïcs travaillant avec lui sont jugés, comme le cardinal Becciu, que le pape a démis de toutes ses fonctions et qui n'a cessé de clamer son innocence. Mais c'est bien au sein de son ministère que l'argent était géré et mal géré par nombre d'intermédiaires corrompus. Pietro Parolin.
On doit défendre l'honorabilité du Saint-Siège. Peut-être que quelqu'un il a fait des choses qu'il ne devait pas faire. Ce sera le jugement qui va l'établir. Et aussi pouvoir rentrer en possession au moins de partir de l'argent.
Le Vatican va perdre au moins 100 millions d'euros dans cette affaire. La secrétaire d'État, elle, n'est même plus autorisée à gérer son propre budget.
Un reportage de Bruce Galzin. L'écrivain belge Henri Verne, le créateur de Bob Moran, est décédé dimanche. Il est l'auteur de plus de 230 romans d'aventure, dont une grande partie a été adaptée en bande dessinée. C'est son éditeur qui a annoncé son décès via son site internet. Henri Verne avait 102 ans. Un mot du temps pour finir. Estival sur les bords de la Méditerranée, mais plutôt mitigé sur le reste du pays. On aura même quelques coups de tonnerre sur le massif central, les Alpes et l'Alsace. Côté température, des minimales comprise entre 13 et 18 degrés. On aura entre 19 et 24 du nord au sud-ouest et jusqu'à 33 degrés dans la vallée du Rhône. Il est 8h05 sur France Musique. Et tout de suite, retrouvez Clément Rochefort pour les matins d'été.
Merci Mathilde Cariou. Musique Matin, ça continue jusqu'à 9h. Prochain journal à midi sur France Musique. À suivre à 8h25, l'été des frères Jacques. À 8h30, notre invité du jour, la mezzo-soprano Lucille Richardot, avec qui on balayera tout son été musical. Et puis on évoquera aussi des projets un peu plus lointain autour de Scarlatti. Mais d'abord, comme je vous l'avais annoncé en début d'émission, hommage à André Tuboeuf qui nous a quittés dans la nuit de dimanche à lundi à l'âge de 90 ans. Né à Smyrne en 1930, admis à l'ENS rue d'Ulm en 1950, agrégé de philosophie, professeur passionné, conseiller musical et surtout l'un des plus grands musicographes de ces dernières années, amoureux des grandes voix. Sa plume était inimitable, volontiers précieuse, d'une élégance et d'une acuité extraordinaire. Il était un critique musical redoutable et bienveillant à la fois. On pouvait le lire dans Opéra International, Opéra Magazine, L'Avant-Scène Opéra, Harmonie, Diapason, Classica, Le Point depuis 1976, sans oublier les nombreux ouvrages qu'il nous a laissés, des essais sur Mozart, Beethoven, Wagner, Verdi, Strauss, sur l'art du Lied qui était sa passion, sans oublier les portraits de ses amis, Elisabeth Schwarzkopf, Dietrich Fischer-Dieskau, Claudio Arrau, Hans Otter, Rudolf Serkin, Arthur Rubinstein, Régine Crespin ou Daniel Barenboim. Il avait aussi écrit un dictionnaire amoureux de la musique et c'était un véritable amoureux de la musique, André Tuboeuf. En 2018, le prix de la critique de l'Académie française lui avait été décerné pour l'ensemble de son œuvre. André Tuboeuf, c'était aussi une voix connue des auditeurs de France Musique. Cette voix un peu méliflue, charmante, sévère à la fois, qui m'a moi-même nourri quand j'étais jeune auditeur. Alors dans quelques instants, on sera en ligne avec Christian Merlin pour évoquer quelques souvenirs d'André Tuboeuf et parler de l'art du critique. Mais voici d'abord une voix que lui a tant aimée, celle d'Elisabeth Schwarzkopf. Frühling, le premier des quatre derniers leaders de Strauss, un lead qui a dû l'accompagner bien souvent, notre André Tuboeuf avec la voix d'Elisabeth Schwarzkopf, l'orchestre radio-symphonique de Berlin sous la baguette de Georges Sell. André Tuboeuf, dont je vous rappelle qu'il nous a quittés dans la nuit de dimanche à lundi à l'âge de 90 ans. André Tuboeuf qui, à l'été 2016, avait enregistré avec Lionel Esparza une superbe série d'entretiens intitulée André Tuboeuf, mémoire, et c'en était une mémoire de la vie musicale. Nouvelle, une série qui sera entièrement rediffusée sur France Musique à partir du 31 juillet, à partir de samedi, tous les samedis et tous les dimanches du mois d'août de 7h à 8h. Une série que vous pouvez déjà réécouter en podcast et en streaming sur francemusique.fr. Série au cours de laquelle il s'était confié sur son enfance en Orient, sur son arrivée à Paris, sur ses études, sur ses premiers émois musicaux, ses années d'enseignement et surtout sur son panthéon musical. Extrait.
Il y avait tellement de talents nouveaux qui apparaissaient et qui étaient porteurs d'une telle éducation qui arrivaient si jeunes encore à une pleine maturité. Je me rappelle la première fois que, et c'est vraiment à l'invitation de René Jacobs, que j'étais allé à Berlin. Et je ne sais pas si c'était Griselda ou un roi Cadmus, je ne sais même plus le titre de l'opéra, mais il y avait à côté d'un jeune Werner Gura qui a fait du chemin depuis, une petite Dorothea Rochmann qui elle aussi a fait du chemin depuis. Et je dois dire, j'ai eu la chance de les connaître jeunes et comme j'étais là, de pouvoir bavarder avec eux, parler avec eux, je les ai revus plus tard. Il y a des connexions qui se font, des aiguillages qui se font, pour ainsi dire, tout naturellement, parce qu'on a pu se trouver à un moment donné avec eux, parler de quelque chose. Et on voit ce développement qui va tellement plus loin, et qui surtout, chose importantissime à mes yeux, maintient, dans un temps qui ne s'y prête pas réellement, maintient des valeurs de discipline, mais de beauté aussi, de simple beauté esthétique et esthétiquement poursuivie par elle-même, pour elle-même, qui risquerait de périr si on n'en prenait pas soin de cette manière-là. Et je dois dire que Dorothea Rochmann, je la connaissais donc déjà, mais enfin je l'ai retrouvée ainsi à Salzbourg quand elle était Suzanne, dans les premières noces que mettait en scène Luc Bondy et que dirigeait Hardoncourt. Mais il y a eu, passé presque complètement sous silence, ce qui a été peut-être une des dernières importantes réalisations d'opéra d'un temps qui n'a plus d'argent pour faire de grandes productions d'opéra au disque. C'était un Falstaff de Festival de Pâques à Salzbourg, dirigé par Abbado, avec un cast très réellement international, avec Terfel en tête, et qui n'a pas laissé de grandes traces, simplement parce qu'il arrivait en quelque sorte hors époque. Mais là, on a tout d'un coup, avec évidemment la sonorité merveilleuse de Berlin et la sonorité qu'Abbado savait leur faire rendre en italien, étant passé par Vienne, qu'il était quand même extrêmement... Il y a une façon d'animer cela, d'animer la forêt de Windsor. Et dans la scène de l'apparition de Nanetta, la scène des fées, on entend la stupeur de la voix de Falstaff qui dit « Ah, ce sont les fées !» Et on entend Rochmann en Nanetta, sous le fil d'un soffio, qui est simplement magique et qui représente quelque chose comme la fin d'un opéra traditionnel, tel qu'on a su le faire, tel que peut-être on ne pourra plus jamais le faire, mais dont il est important que le témoignage puisse rester.
Un petit morceau de la voix de Dorothea Rochmann dans le Falstaff de Verdi avec le chœur de la radio de Berlin, l'orchestre philharmonique de Berlin sous la direction de Claudio Abbado. C'était surtout un extrait de cette voix inimitable hein, de André Tuboeuf au micro de Lionel Esparza. C'est un extrait de cette série André Tuboeuf Mémoire qui sera donc entièrement rediffusée à partir de ce samedi, tous les samedis et les dimanches du mois d'août entre 7h et 8h, à réécouter aussi sur francemusique.fr. Merci merci d'être avec nous ce matin. Il est 8h16. On va poursuivre cet hommage à notre ancien confrère André Tuboeuf, et bien plus que ça d'ailleurs, avec Christian Merlin, journaliste au Figaro, journaliste à France Musique, qui est avec nous au téléphone. Bonjour Christian.
Bonjour Clément.
Christian Merlin, vous avez consacré d'ailleurs à André Tuboeuf un bel article dans le Figaro hier après-midi. Alors vous, vous l'avez connu personnellement, vous l'avez rencontré il y a de nombreuses années, j'imagine.
Ah oui, merci de le rappeler, parce que quelle émotion d'entendre sa voix. Mais effectivement, ça ne rajeunit pas. Je l'ai connu, j'avais 23 ans, c'était il y a 34 ans. Mais avant ça, je l'avais lu, surtout avec passion. Et il fait partie vraiment des gens qui m'ont fait comprendre que quand on n'était pas musicien, ce qui est mon cas, ben, il reste les mots pour transmettre la passion de la musique. Et j'avoue qu'il a tout de suite été extrêmement bienveillant avec moi et m'a encouragé dans cette vocation de critique musicale. Et surtout, il m'a montré, convaincu, qu'on pouvait mener de front l'enseignement et la critique musicale, puisque je me destinais à ce moment-là moi-même au professorat que j'ai exercé pendant de nombreuses années.
Et vous soulignez d'ailleurs dans l'article que vous lui avez consacré, vous soulignez le fait qu'il avait vraiment un côté littéraire. C'est ça qui plaisait et qui marquait aussi, qui faisait la particularité d'André Tuboeuf.
Ah bah évidemment, d'abord une culture universelle, une érudition extraordinaire, et puis ce style qui n'était qu'à lui, qu'on entend aussi à l'oral du reste, puisque même j'étais très touché de réentendre ses intonations, son éloquence et puis son élégance d'élocution. C'est un style Tuboeuf qui pouvait aussi agacer ou déplaire. Moi-même, parfois, je le trouvais un peu trop lyrique ou un peu trop précieux, mais en même temps, il n'aurait pas été lui-même s'il n'y avait pas eu ce style Tuboeuf. Il était absolument contre tout ce qui était scolaire ou académique. Pour lui, il fallait vraiment faire parler sa personnalité. C'était pas quelqu'un qui faisait des recherches minutieuses, qui n'était rat de bibliothèque, qui recoupait les sources, par exemple. Non, non, il écrivait de mémoire, il parlait de mémoire, et il faisait parler son propre ressenti de la musique.
Comme critique, il pouvait être très dur aussi, hein, André Tuboeuf. Faut pas l'oublier. Il pouvait avoir des mots très très durs pour des musiciens, pour des chanteurs, comme il pouvait être très élogieux d'ailleurs.
Et en fait, il avait la passion chevillée au corps, et la passion, ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire que, il l'a dit là, dans l'extrait que vous avez passé à l'instant, il parle de discipline, de rigueur. Et ça, c'était une valeur fondamentale pour lui. Donc, s'il sentait chez un artiste cette discipline et cette rigueur, il avait une admiration inconditionnelle, sans borne, et s'il avait l'impression qu'il y avait la moindre trace de je m'en foutisme, ou de négligence, ou de facilité, de l'effet, du spectaculaire, de la virtuosité pour la virtuosité, là, effectivement, il pouvait avoir la dent très dure. Et c'est le côté prof, peut-être, qui ressort dans ce cas-là.
En tout cas, il ne faut pas oublier non plus que c'était un véritable ami de grands musiciens, et aussi un conseiller. Hein, il recevait, je sais, régulièrement de jeunes musiciens, qui venus de jeunes chanteurs d'opéra, notamment, hein, à qui il dispensait des conseils pour la carrière, pour les aider à s'en sortir. C'était aussi, avant tout, on peut le dire, un homme du disque, hein, André Tuboeuf. Enfin, avant tout, il allait au concert, bien sûr, mais ça a été la grande époque du disque et puis l'apparition du CD qui a marqué l'histoire de la critique musicale aussi.
Absolument, Clément. Et d'abord, peut-être l'apparition du micro-sillon, puisque lui, sa culture discographique, il l'a fait après-guerre. Ça veut dire qu'il a connu la bascule du 78 tours au 33 tours. C'est-à-dire quand on n'avait plus besoin d'une valise entière pour écouter un opéra, mais que ça tenait dans un coffret qui était quand même, pour nous, par rapport au CD, maintenant à l'immatériel, bien sûr, au téléchargement, qui était tout de même très gros. Mais il s'est fait cette culture à ce moment-là où on enregistrait toutes les versions des années 50, les versions Karajan, les versions Callas, Schwarzkopf, qui étaient destinées à rester, destinées à être des versions de référence. Pour nous, ce sont des archives, mais pour lui, cette première main, il en attendait la parution du dernier Schwarzkopf ou du dernier Fischer Dieskau. Donc, ça change complètement le rapport à une époque où, en plus, le disque était très cher et difficile d'accès, alors que maintenant, vous vous connectez sur YouTube et vous avez absolument tout. Donc, c'est vraiment une autre approche.
Il y avait presque, oui, un fétichisme comme ça de l'enregistrement. Et une dernière chose, Christian Merlin, il ne faut pas oublier non plus tous les livres qu'il a laissés et qui ont beaucoup compté pour l'histoire de la musique, et pour la, peut-être moins pour la musicologie, mais pour la transmission, pour le savoir. Il y a des livres d'André Tuboeuf qui vous ont marqué, vous ?
Bien sûr, chaque fois qu'il écrit sur Strauss, sur Wagner, sur le Lied allemand, c'est toujours passionnant, même si très personnel et, comme vous l'avez dit, pas musicologique. Mais toutefois, ce qui restera vraiment pour moi, ce sont ses livres les plus personnels, les tout derniers, puisque quand il était un peu fatigué, il pouvait moins sortir, il écrivait tout le temps, il travaillait. Et je pense à ses livres de souvenirs, celui sur son Orient et celui sur ses années de Cagne à Louis le Grand. Là, on découvre en plus l'être humain, André Tuboeuf, et cet ex extrêmement émouvant.
En tout cas, on peut dire ce matin qu'on a perdu vraiment un des grands musicographes de la deuxième partie du XXe siècle et du début du XXIe, Christian Merlin. Merci d'avoir partagé avec nous ce matin quelques souvenirs autour d'André Tuboeuf. Alors, on a parlé de son amour pour les voix. Il est même un petit peu moins le symphonique peut-être, contrairement à vous, qui en êtes un grand passionné, Christian Merlin.
Eh oui, parce qu'il trouvait ça trop spectaculaire, l'orchestre trop chatoyant. Lui, il aimait la quintessence de la musique, vraiment.
Le lead, et puis le piano aussi, il ne faut pas l'oublier, il avait écrit sur Rudolf Serkin, grand pianiste, qu'on entend ici dans un extrait de la 30e sonate, l'opus 109 de Beethoven. Merci Christian Merlin.
Merci à vous.
Le début de la sonate numéro 30 en mi majeur, l'opus 109 de Beethoven sous les doigts de Rudolf Serkin. Et c'est ainsi que se referme cette petite séquence hommage à André Tuboeuf, dont on regrette qu'il nous ait quittés dans la nuit de dimanche à lundi.
C'est l'été sur France Musique.
Et à 8h25, c'est l'heure de notre chronique, l'été des frères Jacques.
Et ben alors, qu'est-ce que c'est ?
Ce que c'est beau, la photographie, les souvenirs. Sur papier glacé, électrise.
Alors, ce matin, après les larmes, le rire, ça va être une émission très shakespearienne aujourd'hui. Alors, en revanche, attention oreilles sensibles ou trop jeunes, s'abstenir. Il est temps d'éteindre la radio. Mais si on veut être complet sur les frères Jacques, dont vous avez largement pu constater le goût partagé pour la gaudriole depuis le début du mois d'août, il faut aussi que je vous dise qu'ils ont pris beaucoup de plaisir à enregistrer un disque entier de chansons paillardes, comme l'avaient fait d'ailleurs avant eux les quatre barbus et puis plein d'autres chanteurs. La chanson paillarde, c'est une grande tradition française qui remonte à la Renaissance, à l'époque de Rabelais, où l'on considérait que l'esprit le plus raffiné aimait aussi jouer avec les situations les plus transgressives pour le plaisir, et puis plus tard pour le plaisir de choquer la bienséance aussi. C'est vraiment l'héritage des Goliards. Les Goliards, c'était ces prêtres dissipés, itinérants, des 12e et 13e siècles, issus des plus grandes universités de théologie, et qui écrivaient à tour de bras des chansons à boire et autres poèmes satiriques et licencieux. Au 18e siècle libertin, la chanson paillarde est à son apogée, au 19e aussi, où ces chansons circulent notamment chez les étudiants en médecine ou chez les carabins. Comme le dit avec tant de justesse Bertrand Dical dans son dictionnaire amoureux de la chanson française, le chant paillard français a pour spécificité d'avoir ajouté à la célébration chantée de l'acte de chair une virtuosité d'écriture qui, à la nécessaire outrance des motifs exposés, ajoute une recherche lexicale et narrative d'une exigence unique. La chanson paillarde, singulière par son alliance d'érudition et de grossièreté, de haute culture et de bas-ventre. Je trouve que l'expression est parfaitement juste. Après Colette Renard, Brassens, Les Charlots, les frères Jacques s'en sont donnés à cœur joie, eux aussi. C'était en 1965, période beaucoup moins pudibonde que la nôtre actuellement peut-être, hein, ce qui avait fait dire à Raymond Queneau que les frères Jacques étaient les hygiénistes en chef de la santé morale du pays. Et c'est vrai qu'il serait peut-être, on serait peut-être moins malheureux si on riait un peu plus des choses de la vie. En tout cas, sur cet album de 1965, délicieusement défendu, on trouvait par exemple les Trois Orfèvres, que je vous épargne ce matin, parce qu'elle est quand même corsée celle-ci, le Cordonnier Pamphile, Tap Tapine, le Cocu de Paname, ou encore la plus classique, Digue du cul, en revenant de Nantes bien sûr.
La digue du cul en revenant de Nantes.
La digue du cul en revenant de Nantes.
De Nantes à Montaigu, la digue, la digue.
De Nantes à Montaigu, la digue du cul.
La digue du cul, je rencontre une belle.
La digue du cul, je rencontre une belle.
Qui dormait le cul nu, la digue, la digue.
Qui dormait le cul nu, la digue du cul.
La digue du cul, je bande mon arbalète.
La digue du cul, je bande mon arbalète.
Il lui fout droit dans le cul, la digue, la digue.
Il lui fout droit dans le cul, la digue du cul.
La digue du cul, la garce se réveille.
La digue du cul, la garce se réveille.
Et dit, j'ai le diable au cul, la digue, la digue.
Et dit, j'ai le diable au cul, la digue du cul.
La digue du cul, non ce n'est pas le diable.
La digue du cul, non ce n'est pas le diable.
Mais un boudin pointu, la digue, la digue.
Mais un boudin pointu, la digue du cul.
La digue du cul qui bande et qui décharge.
La digue du cul qui bande et qui décharge.
Et qui t'en fout plein le cul, la digue, la digue.
Et qui t'en fout plein le cul, la digue du cul.
La digue du cul, puisqu'il y a qui il y reste.
La digue du cul, puisqu'il y a qui il y reste.
Et qu'il n'en sorte plus, la digue, la digue.
Et qu'il n'en sorte plus, la digue du cul.
La célèbre Digue du cul par les frères Jacques, une chanson qui remonte probablement au Moyen-Âge, même si certains musicologues, bah oui, il y a des musicologues qui s'intéressent aussi à ce répertoire et qui penchent pour un auteur florentin de la Renaissance. En tout cas, on en a une trace puisqu'elle a été publiée dans le recueil des chansons estudiantines Fleurs du Mal dès sa parution en 1922. C'était un recueil créé par le Cercle des sciences de l'Université libre de Bruxelles.
C'est l'été sur France Musique.
Il est 8h30 et il est temps d'accueillir notre invité du jour, c'est la mezzo-soprano Lucille Richardot. Bonjour Lucille.
Coucou à tous.
Alors vous les frères Jacques, vous connaissez par
ouais,
cœur. Hein.
Par cœur, j'étais presque par cœur là, à part deux, trois variantes bruxellaires. pas que les
ah oui, la chanson
était spécialiste du genre.
Je sais pas si c'était que les bruxellois, je pense que c'est les étudiants de tout pays, les
oui,
étudiants en médecine
vous.
En particulier. oui, la chanson paillarde aussi, ça vous connaissez?
Ah ouais, ouais, carrément, ouais, j'en ai fait autrefois avec des amis quand j'étais dans le circuit amateur.
Ah oui, donc comme quoi, il n'y a pas besoin d'être en études de médecine pour chanter la chanson paillarde.
Ah non, faut juste faire un peu de polyphonie de temps en temps.
Exactement. Bah d'ailleurs, tiens, je pense à un truc. Vous avez déjà chanté la musique de Sébastien de Brossard ?
Bien sûr.
Eh bien, je ne sais pas si vous savez que Sébastien de Brossard, qui était prêtre, compositeur, contemporain de charpentier, il a écrit des tonnes de chansons paillardes, lui aussi. Mais
mince,
sous un faux nom.
Mais voilà. Pourquoi on fait pas ça avec correspondance ?
Bah, il faut demander à Sébastien Dossé pour le prochain disque, après les Septèmes Verba. Est-ce que vous passez un bel été, Lucille Richardot ?
Oui, plus que studieux, pour le coup, vu qu'on parlait d'étudiants en médecine. Voilà, je fais ma petite médecine à moi.
Mais oui, il était bien rempli quand même. Vous étiez à Aix-en-Provence.
Ouais. Alors, il y avait les trucs normaux et puis les trucs reportés de l'année dernière. Donc, c'est bien plein, l'agenda.
Aix-en-Provence, où vous avez participé au Combattimento, la théorie du signe noir.
Tout
c'était un spectacle un peu métaphysique,
tout
presque.
Et graphique.
Et graphique. On peut toujours réécouter, en tout cas pour le son, sur francemusique.fr. Il y a encore quelques jours de réécoute. On vous y a entendu notamment dans un extrait de La Didone et de Cavalli. C'est déjà Cavalli que vous chantiez dans le Ballet Royal de la Nuit, enregistrement avec l'ensemble Correspondance de Sébastien Dossé. Est-ce que c'est un compositeur qui vous satisfait vocalement ? Est-ce que la voix est à l'aise dans Cavalli ?
La voix est à l'aise, surtout quand c'est écrit vraiment pour soi, parce que dans le Ballet de la Nuit, ce que je chante, c'était un air de Giunone dans Ercole Amante, et c'est quand même un peu plus écrit pour soprano, et donc on avait un peu bidouillé des choses là. Et Cube dans la Didone, c'est vraiment écrit pour contralte et limite un peu trop grave. Il me l'avait remonté d'un ton, mais chut, il ne faut pas le dire.
Oui, mais en même temps, est-ce que c'est très grave, parce que finalement c'est une musique qu'on peut légèrement parler chanter, celle de Cavalli?
Oui, c'est ça, il y a quand même beaucoup de choses qui sont proches de la voix parlée, surtout quand on a affaire à un compositeur italien qui compose dans sa langue, c'est quand même plus facile. En comparaison de Handel, par exemple, au début de sa carrière, quand il commençait à composer en italien, il ne maîtrisait pas forcément l'italien.
Il y avait des problèmes de prosodie.
Et oui, des fois, ça peut arriver. Donc, il faut recaler un peu le texte, parfois. Oh, les pauvres, c'est pas trop grave. Mais la musique est tellement belle. Et pour Cavalli, il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut s'autoriser. Alors, un jour, il faudra qu'on m'explique pourquoi, les musicologues sont sans doute sur le coup, mais toute la musique de cette époque-là, on peut l'adapter pour soi aussi. Chose qu'on ne se permettrait plus avec Rossini ou même Mozart. Et je ne sais pas pourquoi ça. On se donne des libertés, mais du coup, ça nous permet de faire rentrer des choses dans des cases assez sympathiquement.
Peut-être parce que les compositeurs ont voulu fixer à un moment donné leur musique. Ils ont voulu prendre le pouvoir.
Il y a peut-être encore des ayants droit vivants.
Voilà.
Que Cavalli, non.
En tout cas, vous chantez toutes, puisqu'on parle des langues, vous les chantez toutes. Enfin, en tout cas, toutes les langues du baroque connues. Anglais, italien, français, allemand.
Et même du suédois. Voilà, dans le disque, justement, puisque vous en parliez
suédois.
De Buxtehude, il y a une pièce en suédois.
Exact.
Et on a eu un coaching en suédois. Quoi. Enfin,
ouais. C'est quoi la langue la plus confortable pour vous ?
Ah, je crois qu'il n'y en a aucune.
Ah ouais.
Ouais. Même le français, c'est pas confortable.
Bon, ça, généralement, les chanteurs disent que c'est la plus compliquée. Alors, même les français. Bon, on va écouter de l'italien alors.
Allez, par défaut.
Bah oui, dans le Ballet Royal de la Nuit, vous m'avez dit que c'était Junon. Moi, je croyais que c'était Vénus que vous chantiez.
L'air de Venere
et les Grazie.
Ah oui, pardon, je confonds avec l'air que chantait Caroline Meng, ma grande copine. Coucou. Non, effectivement, c'est Vénus. Vénus, Venere.
Allez, Venere.
Voilà.
Scoglioso e rigido, mostrosi e frigido, non regge il mar, non regge il mar, chiamato al pari, tutti va mar. Scoglioso
e rigido, mostrosi e frigido, non regge il mar, non regge il mar, chiamato al pari, tutti va mar.
sta forza correggi. Si, con suave incanto, canto mio d'amore, forzi la più conforme, supera la tua pro, spero le rigore. Che maligna fortuna, sempre mio figlio oggi al giardin dei fiori i dolci, dolci, dolci i dolci effetti vanno al loco e m'attendi e fa che io ne pulvi si renda pria che manchi il sole ch'io dell'armi provvista onde sua ferita vince presumo preverrò diligente i direi passi per dispor quivi pria che la vicciugna rovente acuta strale che perde l'anda e pugna strone invisibile che inevitabile tal forza avrà che all'insensibile piaga c'è il più gradito con più felicità le gioie infida chi l'amor l'allegrezza come c'è il più gradito con più felicità le gioie infida
fugano, fugano a voi. Un extrait de la quatrième entrée de la troisième partie du Ballet Royal de la Nuit. C'était l'air de Vénus et des Grâces. La musique est de Cavalli. Avec vous, Lucille Richardot, entourée d'autres chanteuses, Violaine Le Chenadec, Amandine Trenck et Dagmar Saskova, l'ensemble correspondance de Sébastien Dossé. Dans cette partie-là, oula, vous faites des yeux.
Ouais,
bizarres.
Je crois que c'était pas eux qui chantaient là présentement. Il y avait David Tricou. Et il devait y avoir Caroline Bardot aussi.
Ah,
mais Violaine Le Chenadec.
C'est ce qui était indiqué sur le disque. Alors, bon, peut-être.
Oui. D'accord. Ouais.
En même temps, vous savez, il faut décrypter parce qu'il y a plein de petites parenthèses avec des initiales. Alors, c'est un jeu de pistes,
les disques, de
correspondance. Ouais. La musique italienne. Alors, je ne sais pas s'il y en aura d'ailleurs, puisque dans le prochain concert que vous donnerez le 8 août, vous serez au Musical de Normandie.
Tout à fait.
À Varangeville-sur-Mer, en duo cette fois avec le claveciniste Jean-Luc Haut, pour un programme autour des magiciennes du baroque. Alors, on entendra quoi là exactement?
Alors, on va entendre de l'italien, de l'anglais et du français.
Mais est-ce qu'on parle des compositeurs?
Alors, du Handel, du Purcell, du William Webb, du Colin de Blamont.
Oh, c'est chic ça.
Voilà, très chic, du Charpentier. Et puis, évidemment, j'en oublie, du Cavalli, tiens, pour changer.
Ah bah voilà, ouais. Des magiciennes, des sorcières, c'est ça, que des personnages
c'est
comme ça.
C'est ça, c'est Médée, Circé et Armide. Il y en aurait eu plein d'autres, mais il fallait se limiter, sinon on ne peut pas saouler le public avec tout ce qu'on aime.
Bah, surtout, c'est des personnages qui ont tellement inspiré les compositeurs qu'il y en a des centaines.
Exactement.
Est-ce que ce n'est pas d'ailleurs la chanteuse d'opéra? Est-ce que ce n'est pas une enchanteresse à sa manière? Un peu une sorcière?
Si, complètement. Ouais. Ouais. Et puis avec tous les pouvoirs, ça permet de faire tout plein de circonvolutions dans la voix. Les compositeurs s'en délectent pour faire des trucs bizarres. C'est l'occasion d'expérimenter sous couvert d'ensorcellement.
En parlant de trucs bizarres, et c'est pas bizarre, mais c'est
vous
un peu plus rare. Non, mais il y a un projet.
Comme c'est étrange.
Vous avez un projet, Lucille Richardot, un projet alors là, qui est un petit peu, c'est comme un pas de côté. C'est un projet sur un répertoire qui est beaucoup moins connu. C'est un projet au long cours, hein, c'est en cours même. C'est l'enregistrement des cantates d'Alessandro Scarlatti, inédites pour la plupart, avec le claveciniste Philippe Grisvard. C'était un projet de Philippe à l'origine?
Oh oui, complètement, parce que moi j'en serais bien incapable. Il s'est amusé à aller chercher un maximum de cantates, parce que quand on parle de disques de cantates, stade de Scarlatti, ça ne peut être malheureusement qu'un tout petit... un tout petit extrait, un tout petit soupçon de cantate de Scarlatti, parce qu'il en a écrit des centaines.
Plus de 700, je crois.
C'est ça. Ouais. Et je crois que Philippe s'est amusé à en transcrire entre 200 et 300. Le boulot de titan. Parce que, évidemment, il n'y a quasiment rien qui a été édité, à part quelques tubes qui ont quand même été enregistrés déjà dans les 20 dernières années qui nous ont précédés. Et du coup, il faut se faire le matériel, comme souvent en musique ancienne. Mais Scarlatti, Alessandro Scarlatti, c'est pas si ancien que ça, quand même. Mm-hmm. Il pourrait être un peu plus grand public, du moins au niveau de ses cantates. Et le matériel est assez inaccessible. Donc, il faut parcourir les bibliothèques, emprunter les partitions, les retranscrire et essayer de faire un peu sa propre édition, ce dans quoi s'est lancé Philippe. Et donc, vous parlez d'un projet au long cours parce qu'on a déjà commencé des résidences de travail, de lecture, on en a lu énormément.
À l'Académie Bach.
Alors, ça a été le point d'aboutissement cette année, qui a fait l'objet d'un concert filmé. Mais on avait fait deux résidences de travail au château de Lasset, dans la Mayenne normande. Et ça remonte déjà bien avant le confinement, je crois même déjà 2018 ou 2019. Non, peut-être plutôt 2019. Voilà.
C'est un projet, je le dis au passage, qui est soutenu par mon ami Xavier Carrère, que les auditeurs connaissent bien, puisque c'est lui qui m'assiste avec beaucoup de courage pendant toute l'année.
C'est vrai, il en faut du courage.
Dire, mais c'est un vrai passionné. Et il
connaît
beaucoup soutenu ce projet.
Son sujet il connaît à fond, quoi. Il a édité des choses sur Scarlatti, donc il a pu bien nous conseiller.
Il est même participé aux traductions, je crois.
Voilà, exactement, parce qu'on a vraiment des traductions assez fantaisistes et c'est très très compliqué la poétique de cette époque-là à comprendre.
Alors en même temps, vous dites que c'est une musique dont on n'a pas beaucoup de traces. En même temps, par essence, c'était un peu de la musica reservata. C'était pas destiné au grand public.
Exactement,
de toute façon.
Comme beaucoup la musique de cette époque-là, hein, c'était réservé à des cercles de privilégiés. Et là, en plus, c'était un cercle de privilégiés dans les privilégiés, parce que c'était les trucs d'Arcadie, là, les gens qui se croyaient au-dessus de tout. Donc forcément, ils ont gardé un peu la musique entre soi et notamment l'édition. Je sais pas si ça a été beaucoup édité ou alors d'auteur ou c'est resté dans des malles. Je peux pas trop en dire plus sur la diffusion, je ne sais pas.
Alors on va en écouter un extrait puis on en reparle après.
Thank you.
Un extrait de la cantate La Dove Margellina d'Alessandro Scarlatti, Amma Chitama. C'est le premier air qui apparaît avec vous, Lucille Richardot, et Philippe Grisvard au clavecin. Cet extrait donc de la vidéo, concert vidéo, qu'on peut voir sur le site de l'Académie Bach, qui héberge donc le premier rendu de ce projet, qui sera un disque enregistré peut-être au printemps prochain.
Oui.
Donc pour une sortie encore ultérieure chez Audax.
Audax Records. Records. Ouais, ouais. C'est le label de Johannes Pramsöller qui est diffusé par Piass, et donc ça rejoint quand même Harmonia Mundi, pour les gens qui se choqueraient. Que
voilà, qui est votre label, qui est votre label maison.
Voilà.
On le disait, ces cantates, donc vraiment des œuvres qui étaient faites pour l'entre-soi. Et alors, il y a une particularité, c'est que Philippe Grisvard a voulu vous accompagner au clavecin seul. On est habitué souvent pour ces cantates à voix seule d'avoir un clavecin et puis
une basse d'archet,
par exemple,
un
une viole de gambe.
Ouais. Ah ouais.
Et là, c'est clavecin seul. C'était vraiment un parti pris.
C'était un parti pris qu'il justifie dans sa note d'intention, d'ailleurs. qui dessine au concert. Il y a des recueils, enfin des traités de l'époque qui prônent ce type d'accompagnement très très épuré, qui donne toute liberté au clavecin, du coup, d'être très très bavard. Là, on a entendu qu'il faisait, et en fait, quand on regarde la basse, c'est juste une basse qui descend avec des noirs. Donc ça donne libre cours à l'imagination et surtout à la volubilité de l'interprète.
Est-ce que c'est une musique qui est particulièrement difficile à chanter, Lucille Richardot?
Ouais, parce que comme on l'a entendu, c'est très tortueux et les tessitures sont très longues. Et bon, là, comme je disais tout à l'heure, qu'on bidouille pas mal de choses, on transpose quand ça nous arrange. Là, on n'a rien transposé du tout, c'est juste Philippe qui m'a autorisé un diapason à 392 qui était historique à l'époque à Naples, autour de 1700. Donc ça m'arrange bien, le truc historique.
Oui, mais en même temps, vous êtes tout terrain, Lucille Richardot.
Complètement.
Je dis ça parce que quand on regarde votre répertoire, ça part du baroque et puis de plus en plus maintenant, 19e, 20e.
Ah oui.
Berio, la séquenza de Berio pour voix seule sur le disque des Cris de Paris.
Et oui.
Il y a quelques mois. Et puis il y aura en 2023 les Troyens de Berlioz. Aussi,
ouais.
Avec John L. Gardiner pour ses 80 ans. Vous avez déjà travaillé avec lui d'ailleurs.
Oui, ouais, on a déjà 3 productions ensemble.
Ouais. Il est comment, Gardiner? On dit toujours qu'il est un peu dur.
Ah bah, il faut jamais me demander ça, voyons.
Ah bon,
je vais pas scier la branche sur laquelle je suis assise. À chaque fois, les gens attendent de moi
des
scoops.
Non, mais vous allez me dire qu'il est exigeant, c'est ça?
Exactement. Non, mais il a son caractère, comme tout le monde. Voilà. Mais c'est ce qui fait sa célébrité et son charme.
Et puis son talent aussi peut-être.
Son talent.
Parce que c'est voilà, être exigeant, c'est pas forcément une mauvaise chose.
Voilà.
On va donner quelques dates avant de se quitter, Lucille Richardot.
Tout à fait.
Le 30 juillet, dans quelques jours, vous serez au Temple luthérien d'Héricourt au festival Musique et Mémoire pour un spectacle qui sera repris d'ailleurs à Ambronay. La rentrée. Le voyage d'Anne de la Barre en Septentrion, c'est quoi? Ça veut dire quoi ça?
Alors ça veut dire voyage d'Anne de la Barre dans le Nord, parce qu'en fait elle a été invitée par Christine de Suède.
Oui, mais c'était qui? C'était une chanteuse?
Ah oui, pardon. Ouais. C'était une chanteuse phare qui a fini chanteuse professionnelle quand même à la cour de Louis XIV. Et donc c'était la fille de Chabanceau de la Barre, ou la sœur, je ne sais plus. Enfin bref, c'était toute une lignée de musiciens. Et donc on interprète des pièces de sa famille aussi. Elle est partie en pèlerinage comme ça, à l'invitation de Christine de Suède, à travers les Pays-Bas. Donc on a aussi des œuvres de Constantin Huygens qui l'a invitée chez lui. Et après, ça redescend, elle est redescendue par le Danemark. Et au moment de l'abdication de Christine de Suède, elle est revenue en France couronnée de laurier. Mais elle était déjà très très en vogue quand elle avait 17 ans avant de partir en Suède. C'est pour ça qu'elle avait reçu l'invitation.
Christine de Suède, qui était venue à Rome d'ailleurs.
Tout à fait.
L'Arcadie, qui avait participé à l'Arcadie.
Ouais, tout se rejoint,
tout se
recoupe. Qui
avait intégré Alessandro Scarlatti.
Voilà.
La boucle est bouclée. Le 8 août, au Festival Les Musicales de Normandie autour des magiciennes baroques. Le 20, vous serez à la Chaise Dieu pour un programme Bach, la Messe en Si.
La Messe en Si avec Nicole Corti, que j'ai retrouvé 15 ans après la maîtrise de Notre-Dame de Paris.
Et puis il y aura le Festival d'Utrecht.
Ouais.
Ça, c'est un des plus grands festivals
baroques.
Ça,
on croise les doigts parce qu'on a toute une résidence avec correspondance et malheureusement, on tend le dos avec ces histoires de fermeture de salles.
Mais oui. Et puis de circulation. On ne va pas donner toutes les dates parce qu'il y en a beaucoup.
Trop.
J'allais dire, on pourrait aller sur votre site internet, mais non, parce qu'il n'y en a pas.
Toujours pas. Pas d'agent, pas de site, le boulet intégral.
Il faudrait quand même, faire quelque chose.
Il y a
pour
des
ça,
choses sur le site d'Harmonia Mundi et sur un site Opéra Base. Il y a plein de choses qui peuvent. Palier.
Bon, on parlait de Joseph Gardiner, il y a quelques instants. Vous avez enregistré cette année, enfin publié en tout cas cette année, La Sémêlée de Handel.
Oh, c'était déjà l'année dernière.
C'est l'année dernière, oui, c'est vrai. Et dans laquelle vous chantez l'air de Junon, qui, comme d'habitude, est en colère.
Sinon, elle n'aura plus de charme non plus, elle.
Merci, Lucile Richardot, d'être venue nous voir ce matin sur France Musique.
Merci pour l'invitation.
Flight we'll take. Hence, and it's hence away, and it's hence away, away, a speedy flight, a speedy flight will take.
Ah, ça c'est la cadence virtuose, hein, Lucile Richardot. C'était l'air de Junon, Hence Iris, Hence Away, extrait de Sémêlée, l'acte 2 avec vous Lucile Richardot, les English Baroque Soloists sous la direction de John Elliott Gardiner. Et bien voilà, c'est la fin de cette émission. Vous êtes hilar, Lucile Richard. C'est la musique
pas.
Qui vous fait rien.
Ouais, je pense.
Oui. Alors bah, tiens, je vais vous poser la question du jour. La question, oui. C'était quel est l'instrument préféré de Louis XIII. Est-ce que c'était le violon, le luth ou le clavecin,
le
vous savez.
Le synthétiseur, évidemment. On va dire que c'était le luth.
Oui, c'était
le petit luth,
exactement. Excellente réponse. Il avait même commencé l'apprentissage du luth à l'âge de 3 ans.
Voilà,
il l'avait imposé à la cour, il organisait des concerts privés autour du luth.
C'est Mozart qu'on a assassiné en le mettant sur le trône.
Louis XIII, qui était compositeur aussi,
voilà,
Lucile Richardot, qui avait composé le ballet de la Merlaison, qui était le ballet de la chasse aux merles donné à Chantilly et à Royaumont en 1635.
C'est il avait du talent, déjà
Louis
XIII.
Ben oui. Alors bravo à nos gagnants du jour qui vont repartir avec votre disque,
c'est
Les Plaisirs
vrai.
Du Louvre. Vous êtes dessus,
mais
avec
oui.
Sébastien Dossé. Mmh. Bravo à Benoît Van Am de Paris, Alba Auvray de Sauve dans le Gard, et puis Nicolas Buisson de Saint-Priest-la-Feuille dans la Creuse.
Ça fait voyager.
À Allez, on reste à l'écoute de France Musique. La journée ne fait que commencer. Dans quelques instants, à 9h, c'est l'été classique de Charlotte Landru-Chandès. Bonjour Charlotte.
Bonjour Clément.
Charlotte, est-ce que vous pouvez nous parler du programme, des réjouissances à venir de ce matin?
Eh bien, aujourd'hui, dans l'été classique, on va danser tarentelle, habanera, valse et saltarello au programme. Et à 11h, on retrouvera Anne-Sophie von Otter, notre grande interprète de la semaine.
On peut venir avec Lucille Richardot danser dans votre studio?
Oh bah oui, venez, vous êtes les bienvenus.
Eh ben, on arrive. Lucille, vous serez là?
Allez,
ouais, elle adore
un
danser.
Autre café, j'arrive.
Un autre café et on arrive. C'est à 9h, Charlotte Landru-Chandès, l'été classique. Quant à moi, je vous retrouve demain matin à 7h30. J'aurai le plaisir de recevoir le pianiste Arkady Volodos pour fêter, non pas l'ouverture du Festival de la Roque d'Anthéron, mais le début de la présence de France Musique à la Roque. Un grand merci à toute l'équipe technique, Laure Poissonnier, Lara Castiglione. Merci à Maël Larfassor et YouTube Diego Aclopes à la technique. L'émission a été réalisée, comme tous les matins de l'été, par Théicia Froidure. Allez, je vous souhaite une très bonne journée. À demain, je vous embrasse.
Cette semaine, Grand Large vous emmène faire le tour de la Méditerranée des années 20 aux années 50, de Barcelone au Caire, de Rome à Alger, d'Athènes à Tel Aviv. Pablo Casals, Mohamed El Anka, Arturo Toscanini, Marcos Vamvakaris seront du voyage. Alors, montez à bord, le Grand Large vous attend du lundi au vendredi à 17h. Ces 10 épisodes sont à retrouver en podcast sur francemusique.fr et l'application Radio France. Bon voyage!
Jazzy Marciac.
Il fallait qu'on y soit.
Nous y sommes.
Venez applaudir avec nous Prad Meldo,
Michel Portal,
Eric Truffat,
Roberto Fonseca,
Yun Sumna.
Et c'est jusqu'à mercredi.
Jusqu'à mercredi, 3 concerts par soir. Ça commence à 20h mais ça finit...
Ah, il y a plus d'heures.
C'est sur France Musique et francemusique.fr, venez.
À réécouter sur francemusique.fr.